Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La mort, pour un médecin, c'est souvent la limite à repousser. Son métier, l'art et la manière, jusqu'à l'orgueil de pouvoir conjurer ce destin partagé. Tant et si bien que l'accompagnement de la fin de vie n'est souvent pas la tasse de thé des médecins. Certains pourtant en font leur spécialité, comme Thierry Marmet, fondateur des soins palliatifs dans la Ville Rose. Un métier hors norme qui vous creuse et a fini par forger une personnalité pas banale, celle d'un humaniste devenu étonnamment un grand ami de la vie. Thierry Marmet, un humaniste au chevet des mourants, rien que cela, j'ai envie de dire. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. En cette semaine de Radio Don, on est très heureux de vous recevoir. Thierry Marmet, vous êtes donc ancien chef de service de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Joseph Ducoing à Toulouse et professeur associé de médecine palliative à la faculté de médecine à l'université Toulouse 3. Donc Paul Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Merci de faire un détour par nos studios. C'est pas la première fois que vous venez. Moi, c'est la première fois que je vous reçois. On avait failli une fois arriver à savoir. Je crois que c'était à l'occasion des états généraux de la bioéthique. On est très, très contents. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes encore en pleine semaine du Radio Don. C'est aujourd'hui le dernier jour. Voilà, c'est une semaine importante pour nous. Non seulement parce que on demande de l'argent, on tend la main auprès de nos auditeurs, mais aussi parce que c'est souvent l'occasion pour nous de les entendre, de les faire intervenir à l'antenne, bref, de les voir, alors que souvent on travaille un petit peu à l'aveugle. Pas de surprise pour vous, je voulais commencer peut-être par vous demander tout simplement ce que vous pensiez de notre radio, si ça vous est arrivé d'intervenir, peut-être l'avez-vous déjà aussi écouté, quel regard vous portez sur cette radio ?
Alors écoutez, pas forcément parce que je suis un tout petit peu pris quand même, mais par contre, ce que j'ai apprécié dans le fait de croiser la route de cette radio à plusieurs reprises, c'est l'ouverture avec laquelle j'ai été reçu, la facilité avec laquelle on a parlé de choses dont il n'est pas facile de parler et qui soulèvent souvent des réactions très épidermiques, très idéologiques.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Ben, par exemple, le débat sur la fin de vie. Il me semble que ce que j'apprécie dans les médias en particulier, c'est quand ils donnent la parole à tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de violence dans nos sociétés, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et tout ce qu'on peut faire pour lever un voile sur cette ignorance et sortir de ce monde terrible de la multiplication de ce qu'on appelle les fake news, et bienvenue. Et en ce sens, j'ai le sentiment que vous faites un peu ce métier-là.
Eh ben, merci beaucoup. C'est un beau compliment. C'est vrai qu'on s'essaye à être un lieu de rencontre et de dialogue, parfois au-delà de bien des a priori aussi que nos invités peuvent avoir sur les chrétiens ou sur l'église. Donc je donne le numéro de téléphone pour nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler, des standardistes feront une joie d'accueillir vos appels. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Le vendredi, donc on s'essaye de temps à autre, en dehors des émissions cinéma et actualité, donc à la rencontre de certaines personnalités. Alors aujourd'hui, c'est vous. Comme à chaque fois, je le dis un peu pour prendre les auditeurs par la main, on va commencer par raconter un petit peu votre vie. En tout cas, vous allez nous la raconter, ce que vous voulez bien nous en partager. On parlera évidemment de la fin de vie, des soins palliatifs, de votre métier. Et puis à la fin, on fera un peu une partie plus philo ou plus spirituelle sur ce qui vous meut et ce qui, pour vous, est le sens de la vie. Alors Thierry Marmet, si on remonte un petit peu loin, avant d'être, on va dire, le fondateur des soins palliatifs à Toulouse, vous êtes né comme tout le monde, et j'ai envie de dire, c'était en 1951. J'aime bien souvent demander aux gens un peu d'où ils viennent, à quoi ressemble leur milieu d'origine, leur famille. Ça en dit souvent long sur, quand même, sur tout à chacun. Alors vous, à quoi ressemblait votre famille ?
Alors de ce point de vue-là, déjà, c'est un petit peu étonnant en ce sens que du côté de ma mère, on appartient à l'immigration italienne qui a fui l'Italie avec la montée du fascisme. Et du côté de mon père, on est dans la Champagne, au milieu des bulles. Il se rend compte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ils vont avoir 50 ans, 5 enfants, dont moi.
Quel type de milieu, si c'est pas indiscret?
Alors, du côté de ma mère et de mes grands-parents, on est plutôt dans le monde agricole. Ma grand-mère paternelle était couturière, hein, et lui sera spécialiste de la fabrication de conduites forcées, c'est-à-dire pour faire circuler de l'eau dans les barrages ou du pétrole dans les pipelines. Ce qui va le faire voyager beaucoup et qui fait que je vais naître en Guinée, à Conakry. Donc c'est déjà ça, pas banal.
Et vous êtes dans la fratrie, vous êtes le premier,
moi, je suis le troisième.
Cinquième, le troisième. Que dire aussi des convictions de vos parents? Avaient-ils des convictions politiques, religieuses, spirituelles marquées? Quelles étaient-elles?
A priori, dans les deux familles, il y avait une culture catholique classique. Moi-même, du coup, je n'échapperai pas à être enfant de cœur, à faire ma communion, à passer parmi toutes ces étapes dont je retiens qu'elles ont probablement alimenté une certaine conscience morale.
Voilà. Est-ce que Dieu était quelqu'un pour vos parents, vous diriez, ou c'était une culture ambiante?
Alors ça va être plus difficile d'en parler, en ce sens que mes parents se sont séparés alors que j'avais 7 ans. Et à partir de ce moment-là, je les ai pratiquement plus vus, puisque mon père voyageait beaucoup à l'étranger et que ma mère a refait sa vie alors que nous étions, nous, avec la grand-mère paternelle dans la région parisienne et elle dans la région Midi-Pyrénées, donc on les voyait très peu. Et je ne peux absolument rien dire de comment ils ont évolué sur le plan spirituel.
Voilà, donc vous avez en tout cas donc grandi assez rapidement avec vos grands-parents, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Sans vouloir être indiscret, on imagine que ça marque quand même une vie à un homme. Est-ce que ça vous a aussi peut-être réveillé tôt à la souffrance ou, on va dire, au poids des choses importantes dans la vie?
En tout cas, ça provoque des recherches de mécanismes pour se protéger de ça, parce que ça va pas de soi, effectivement, que d'un coup d'un seul, deux parents soi-disant pour notre bien s'éloignent de nous. Ça va pas de soi. Donc il a fallu se construire dans ce contexte-là. J'ai fait beaucoup de sport. Et par ailleurs, je suis tombé dans la lecture. Et je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main. Il y a des périodes où j'étais capable de lire 3 à 4 romans par jour. Ça a été pour moi peut-être l'espace dans lequel j'ai aussi grandi intellectuellement, parce que parmi ces lectures, je pouvais tomber aussi bien sur des choses banales comme des choses profondes, et on n'en sort pas indemne.
Alors on en reparlera justement dans la dernière partie, mais je crois que, enfin relativement tôt, en tout cas à l'adolescence, vous avez commencé déjà à lire un peu la philosophie antique, non?
Alors c'est vrai que
vous aviez le profil de quelqu'un qui se posait assez jeune des grandes questions.
C'est vrai que j'ai croisé la route complètement par hasard, parce que voilà, ça m'est tombé sous la main du manuel d'Épictète, un stoïcien dont un des disciples a écrit ce fameux petit manuel. Et c'est vrai que la lecture de cet ouvrage m'a beaucoup frappé, et surtout cette phrase là que j'ai apportée pour pas me tromper, que je vais lire: ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Autrement dit, d'emblée, ça m'a toujours questionné sur le fait que il y avait effectivement des choses qui ne dépendaient pas de moi, et si je perdais du temps à s'occuper de ces choses-là, j'allais me pourrir la vie, et qu'il fallait vraiment que je m'occupe uniquement de ce qui dépendait de moi. Donc ça forge des postures et des convictions.
Alors, vous n'avez pas choisi de faire de la philosophie pour autant. Vous avez fait des études de médecine, donc entre 1970 et 1979, année au cours de laquelle donc vous avez soutenu votre thèse de médecine. Vous avez fait vos études dans la Ville Rose. Comment vous avez atterri dans la Ville Rose?
Alors, il y a un événement avant. J'appartiens à ceux qui ont vécu 68. Donc, en 68, j'étais en première. Et ce qui se passait là m'a mobilisé. Donc j'étais très présent et très actif dans les événements de 68 à mon modeste niveau, bien sûr. Hein. J'étais interne dans un lycée alsacien, mais j'étais très actif dans les mouvements de grève, dans les réflexions qu'on pouvait, les questions qu'on avait autour de ce qui se passait dans notre société, qui nous paraissait injuste. Donc j'ai été beaucoup mobilisé. Et cela a été suivi par, en terminale, la rencontre d'un professeur de philo qui était engagé lui aussi, alors un peu à l'extrême gauche. Et donc, quand je suis sorti, que j'ai eu le bac, une des idées que j'avais, c'était que il fallait que j'aide le monde ouvrier à s'en sortir mieux. Donc,
alors vous avez commencé, en fait, j'allais l'oublier, vous avez commencé du coup par...
Voilà, pendant un an, j'ai été ouvrier. Et puis j'ai rapidement pris conscience que j'étais pas à ma place. Et donc c'est à partir de là que est revenue la question. En fait, ce dont tu avais envie, c'était de faire la médecine. Tu vas donc faire la médecine.
Alors qu'est-ce qui vous motivait dans la médecine? Parce qu'on dit souvent que c'est... Enfin, on a l'impression que c'est une profession un peu à part. En tout cas, ça fait partie de ces professions qu'on pourrait choisir par vocation, comme on dit. Quand vous regardez rétrospectivement, quelle était votre première intention que vous aviez au cœur en vous lançant dans la médecine?
Alors, il y a toujours eu cette question de la souffrance. Et dans mon esprit, la médecine était le lieu où il y avait moyen d'intervenir sur un des lieux où il était possible d'intervenir sur cette souffrance. Et avec peut-être quand même une posture qui était un peu dans cette idée qu'on pouvait la guérir, qu'on pouvait la soulager à tous les coups, que ça devait se travailler. Donc j'étais un peu dans cette posture d'imaginer que la médecine pouvait guérir tout. Donc je suis parti comme ça avec cet engagement-là et que si je faisais médecine, une des finalités c'était de bien sûr guérir les maladies, soigner des gens et surtout être très présent, soulager leurs souffrances.
Alors c'est quelque chose dont vous parlez assez souvent, en tout cas dans les textes que j'ai trouvés de vous, de cette, je ne sais pas si au moment vous n'utilisez pas le terme d'idéologie en fait de la guérison à tout prix, mais certainement qu'on y reviendra. Vous avez travaillé lors de vos études, vous avez été interne dans un service d'oncologie pédiatrique, donc un service dans lequel des enfants étaient atteints de cancer. C'est une chose importante sur laquelle il faut s'arrêter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a autant frappé?
Ben, ça a été un choc, en ce sens que je n'avais pas encore tout à fait abandonné l'idée que la médecine était là pour guérir des maladies et guérir des gens. Et voilà que pendant un stage de 6 mois, une vingtaine d'enfants vont me mourir dans les bras.
Vous aviez moins de 30 ans en plus quand même, c'est... si j'ai bien compté. Oui,
j'avais 25 ans. Et j'ai vécu pendant 6 mois une situation d'impuissance permanente et ne trouvant pas de ressources à cela. Donc forcément, ça m'a questionné sur ce que je faisais là et l'orientation que j'allais pouvoir donner à la suite de mon métier. Donc ça a été effectivement un moment difficile et un moment d'une richesse inouïe dans ce qui s'est joué entre moi et ces enfants. Je dois dire que pendant ces 6 mois là où j'étais censé être là que le matin, l'attention que je portais à ces enfants, toujours avec l'idée que tout ce que je pouvais faire pour qu'ils souffrent le moins possible était important, j'étais là matin et soir.
Alors après, donc vous avez été résident donc dans un centre anticancéreux, donc vous avez travaillé dans un centre anticancéreux, vous avez travaillé à la Mutualité française, donc d'une certaine manière vous avez arrêté en fait l'exercice de la médecine, c'était dans les années 80, et puis vous y êtes revenu, vous m'avez dit donc à la médecine, l'exercice de votre métier, en partie cette parenthèse après avoir été autant marqué par cette expérience que vous venez de décrire, vous y êtes revenu par les soins palliatifs. Alors on y reviendra dans la deuxième partie, mais j'aimerais juste qu'on marque quelques grands jalons. Si je dois, on va dire, donner deux grandes dates, ça serait dans les années 90, vous avez contribué donc au développement des soins palliatifs dans la région. Ça a commencé à Rodez. Et puis, on va dire, vous avez accompagné ce développement jusqu'à la mise en place d'un réseau de santé en soins palliatifs dans les années 2000. Réseau donc, alors c'était pas en Occitanie probablement à l'époque, c'était en Midi-Pyrénées. Décrivez-nous à gros traits les grandes étapes de cette carrière après qui s'est déroulée.
Alors, juste un petit mot quand même sur le fait que c'est pas par hasard que j'ai abandonné un petit peu la clinique pour faire de la santé publique, en ce sens que il me paraissait qu'il y avait aussi une injustice dans la manière dont on prenait en charge les personnes âgées, de la manière dont on les soignait. Les hospices, dans les années 80 étaient encore là. Le sort des personnes âgées qui entraient était pas très satisfaisant. Donc,
puisqu'à la Mutualité française, vous travaillez donc sur le vieillissement de la population
tout
française.
Tout à fait. Mais vieillissement de la population française, l'anticipation de ce vieillissement démographique, et surtout essayer de trouver des réponses plus satisfaisantes à leur prise en charge. Donc, néanmoins, au travers de ça, la Mutualité française aussi, dès le milieu des années 80, est sollicitée pour participer à une réflexion sur les soins palliatifs en France, autour de la mission de Geneviève Larocque, qui publiera en 87 le rapport Soigner accompagné. Et j'ai travaillé en parallèle de cette commission pour la Mutualité française, en allant voir des expériences un petit peu partout, en Europe, en Amérique, en Angleterre,
on est au tout début des soins palliatifs en France.
On est au tout début des soins palliatifs en France. Et donc, effectivement, la première étape, c'est d'installer à Rodez une structure de soins palliatifs en hospitalisation à domicile, et parallèlement, je vais contribuer à installer une structure de soins palliatifs pour les personnes âgées à domicile à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, je suis en train de mettre cela en place, qu'entre le directeur régional de l'action sanitaire et sociale de Midi-Pyrénées me sollicite pour monter le projet d'unité de soins palliatifs. Donc, je vais être la cheville ouvrière de ce projet. Et puis, finalement, une fois qu'il sera accepté et financé, le directeur de l'hôpital Joseph Ducoing, qui a été désigné pour l'accueillir, me demandera de venir les rejoindre pour mettre en place ce dispositif. Ça va commencer à fonctionner vers 95. Il y a des travaux à l'hôpital Joseph Ducoing. On entrera dans nos locaux propres au passage de l'an 2000. Parallèlement, les tutelles nous demanderont de faire un travail de sensibilisation en milieu hospitalier. Et on sera parmi les premiers en Midi-Pyrénées à faire un travail d'équipe mobile, c'est-à-dire que on se déplacera dans les hôpitaux publics de la région pour aider nos collègues, que ce soit les médecins, les infirmières, à améliorer la prise en charge des personnes relevant des soins palliatifs. Et dans une deuxième période, fin des années 90, on se dit, mais c'est pas tout de faire ça à l'intérieur de l'hôpital, il faut le faire aussi vers le domicile. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Alors, les premiers qui ont commencé, c'est nos collègues du 65, des Hautes-Pyrénées, hein, et puis on s'y est mis aussi en Haute-Garonne, et puis finalement, l'Agence régionale de l'hospitalisation nous a demandé de mettre en place un comité technique régional afin d'installer un réseau de santé en soins palliatifs dans chaque département de la région Midi-Pyrénées.
Et en Midi-Pyrénées, aujourd'hui, on dirait quoi? On dirait que c'est une des régions qui est bien lotie, qui...
On peut dire aujourd'hui effectivement que la région Midi-Pyrénées est relativement bien dotée en dispositifs, mais il reste des efforts énormes en matière de formation des soignants à la démarche palliative. Et il est une contrainte très forte dans notre région qui est celle du vieillissement démographique. On enlève Toulouse, on est la région la plus vieille de France. Et derrière cela, des sujets qui nous préoccupent, c'est l'accompagnement des personnes âgées qui vivent en établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Car là, tant en matière de formation du personnel qu'en termes d'organisation, il reste beaucoup de travail à faire.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver Thierry Marmet tout de suite après pour parler un petit peu plus des soins palliatifs, vu encore par beaucoup comme, on va dire, l'antichambre de la mort, quand ce sont d'abord des lieux de vie. Vous insistez à temps et à contre-temps, en tout cas dans ce que j'ai lu et ce que je connais de ces unités de soins palliatifs, lieu où se passe beaucoup de choses et où on y exerce probablement une médecine aussi un petit peu d'avant-garde. Vous avez écrit un livre, je le donne maintenant et puis je le reciterai pour ceux qui sont plus intéressés par ces questions, Éthique et fin de vie, paru aux éditions RS. Et je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en semaine de Radio Don. Donc soyez généreux avec la radio. La radio vit en grande partie de vos dons. Et si on peut recevoir comme ça des personnalités, si je peux conduire cette émission Vivante Église, ou moins celle-là, eh bien c'est grâce à votre générosité. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Thank you.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Thierry Marmet, un humaniste au chevet des mourants, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission rencontre donc avec cet homme. Thierry Marmet, vous êtes ancien chef de service de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Joseph Ducoin à Toulouse et professeur associé de médecine palliative à la faculté de médecine de l'université Toulouse 3. Paul Sabatier, on est ravis de vous recevoir en cette semaine de Radio Don. Je me disais que c'était un beau cadeau que vous nous faisiez, parce que ça illustre bien aussi ce qu'est la mission de notre radio, voilà, de rencontrer toutes les belles personnalités qui font notre région, parce qu'évidemment les chrétiens n'ont pas l'apanage du bien, loin s'en faut. Je rappelle aussi à nos auditeurs que nous sommes en semaine de Radio Don pour ceux qui nous rejoindraient, et un seul numéro de téléphone pour nous appeler, nous soutenir, nous encourager, et on en a besoin, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Alors, les soins palliatifs, ça a été donc votre grand exercice de la médecine. On en parle quand même de plus en plus. Tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est encore. Avant toute chose, comment vous définiriez les soins palliatifs dans l'esprit des gens, et je pense que ça vous agace, c'est le lieu où l'on vient mourir. J'ai noté cette expression. Vous, quelle serait votre définition?
Ben, on n'est pas sans responsabilité sur la représentation qu'on s'en fait de ce lieu, en ce sens que je crois qu'on était pris dans cette posture que la médecine doit régler tous les problèmes un par un, et on a inventé l'idée qu'il fallait des spécialistes, des gens qui sont en train de mourir. Et très très vite, on s'est aperçu qu'on avait fait une erreur, parce que en réalité, l'objectif des soins palliatifs, c'est d'accompagner des vivants jusqu'à ce qu'ils meurent, leur permettre de vivre le mieux possible. Et du reste, très très vite, on n'a pas cantonné les soins palliatifs à la question des mourants, mais on a, dès les années 90, inventé un deuxième terme, la démarche palliative. C'est-à-dire qu'il y a d'autres populations dont il faut pallier les conséquences de ce qu'est leur état de santé pour qu'elles puissent vivre avec qualité. Les personnes âgées, les handicapés, les maladies neurologiques dégénératives. À l'époque, le sida entrait bien aussi, les patients atteints du virus de l'immunodéficience humaine entraient bien dans cette catégorisation-là.
Alors, du coup, quelle définition vous en donneriez?
Alors, aujourd'hui, les soins palliatifs, c'est tout ce que l'on peut faire pour qu'une personne puisse vivre avec la meilleure qualité de vie possible jusqu'à ce qu'elle meure.
Ceci étant dit, vous avez l'habitude de rappeler aussi certaines réalités, on va dire, sociologiques. 3 décès sur 4 se faisaient à la maison au début du XXe siècle, rappelez-vous souvent. 1 décès sur 4 à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on en est où, en fait? Maintenant, on meurt à l'hôpital, on meurt en maison de retraite, en EHPAD, comme on dit aussi.
Alors oui, effectivement, si on a assisté pendant le XXe siècle à un déplacement de la mort du domicile vers l'hôpital, actuellement... on assiste à un nouveau déplacement vers les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. On va dire que aujourd'hui, on est toujours à peu près à un quart des décès qui se passent à la maison. Il y en a à peu près un tout petit peu plus de la moitié qui se passent à l'hôpital. Et il y en a de plus en plus qui se passent dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Et là, ça a été très vite. Quand on a vu apparaître les maisons de retraite, après la loi de 75 sur les institutions médico-sociales, on entrait en maison de retraite. C'était un projet de finir sa vie dans ce lieu-là. Très très vite, la dépendance est arrivée. On a appelé ces endroits les MAPAD, les maisons d'accueil de personnes âgées dépendantes. Et puis aujourd'hui, on les appelle les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Parce qu'on y rentre de plus en plus tard quand on est déjà dépendant. Et une personne sur deux décède dans les 6 mois qui suivent son entrée en établissement d'hébergement. Et dans notre région, c'est particulièrement marqué, puisqu'il y a des bassins de vie où un quart des décès concernent les personnes qui sont en EHPAD.
Alors sur la fin de vie, j'aimerais aussi, la partie sociologique, vous disiez un petit peu de la, Quelques mots de la représentation qu'on a de la mort. Je pense que ça ne surprendra personne parce que c'est des choses qu'on dit à cette antenne, que la mort est escamotée. Vous citez entre autres Philippe Ariès, donc qui est un historien des mentalités, qui parle de la mort interdite, qui a écrit entre autres un livre, un essai sur cette représentation que l'Occident a de la mort. Vous qui avez longtemps travaillé et côtoyé d'une certaine manière aussi la mort, qu'est-ce que vous diriez en plus que ce qu'on a l'habitude d'entendre justement sur ce sujet, ce que je viens de citer? Je sais pas, on se prive de quelque chose.
Bah, moi, je serais déjà très socratique en disant que tant qu'elle n'est pas, on est, et quand elle est, on n'est plus. Donc, ce qui se passe après m'importe pas beaucoup. Ce qui m'importe le plus, c'est ce qui se passe avant. Et ça serait dommage, parce que quelque part, elle nous fait peur quand même, de perdre du temps, de pas être assez présent, de pas être assez là, aux côtés de ceux qui s'approchent de ce moment-là. Ce qui me paraît l'élément qui a été le plus déterminant dans ce que j'aurais compris des soins palliatifs, c'est la question de la présence à l'autre dans ces situations-là. Comment notre présence les rassure au point qu'ils peuvent s'autoriser à vivre encore un peu et en profiter. C'est un petit peu ça, ce que j'aurais essayé de faire dans les soins palliatifs. C'est d'essayer, autant que faire se peut, de créer ces conditions-là.
Alors, contrairement à ce qu'on s'était dit, dans ces cas-là, on verra les différentes lois après. On va rentrer un petit peu dans un service de soins palliatifs avec vous. J'ai vu une histoire comme ça, qui à mon sens peut illustrer ce que vous venez de dire. Peut-être que vous vous en souvenez, c'était un homme qui avait la maladie de Charcot, qui est rentré chez vous, qui voulait mourir. Et puis, de fil en aiguille, cet homme a retrouvé goût à la vie. Et surtout, ce qui m'a frappé dans le témoignage, c'est que j'ai souvenir que vous n'avez... À vous entendre, en fait, vous n'aviez fait qu'être là ou l'écouter. Et c'est un peu désarmant, en fait, quand on prépare une émission comme ça sur les soins palliatifs, parce qu'on sent qu'il y a toute une science importante. Et en même temps, on a l'impression que vous développez une autre science qui est justement juste d'apprendre à être présent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu... Pas paramédical, mais au-delà de la médecine dans l'exercice d'un tel métier?
Je pense que la question de notre état de santé, elle tient à la fois à nous et à la fois à l'environnement dans lequel nous sommes et comment il interagit avec nous. Je vais prendre un contre-exemple à celui qui vient de vous donner, peut-être une des moments comme ça les plus forts que j'ai été amené à vivre, concerne une jeune femme qui était en train de mourir d'un cancer du poumon et qui était en situation de détresse respiratoire. Elle était dans cette agitation terrible où on ne trouve pas sa place, on n'arrive pas à respirer, on se couche, on se lève, on ne sait plus quoi faire. J'entre pour faire la visite dans cette chambre, je vois une infirmière, une aide-soignante complètement désarmée de cette situation. D'où ça me vient, je ne sais pas, mais je propose à cette jeune femme de la prendre dans les bras. Ce à quoi elle me répond, mais que va en passer votre femme, docteur? Ce qui va nous faire sourire. Je lui dis, mais bon, elle sait ce que je fais. Est-ce que vous acceptez que je vous prenne dans les bras? Je la prends dans les bras et, la prenant dans les bras, en même temps, je guide sa respiration pour qu'elle soit un petit peu plus abdominale qu'elle ne l'était, pour donner un petit peu plus d'ampleur, et ça va apaiser sa respiration. Donc, c'est cette science-là que j'aurais découvert dans la pratique des soins palliatifs, comment, en étant présent à l'autre, en n'ayant pas forcément des médicaments efficaces, en n'ayant pas forcément des certitudes sur les traitements qu'il y a à faire, que dans la pire des situations, il peut toujours se passer quelque chose au fait d'être là et d'oser faire des choses.
Alors, on en vient rapidement, on rentre rapidement dans le vif du sujet avec vous. Vous me direz, c'est probablement le métier qui a été le vôtre. J'ai souvenir comme ça d'un autre médecin qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Antoine Sénanc, que vous devez connaître, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Guérir quand c'est impossible, qui n'a pas travaillé en unité de soins palliatifs, si je ne me trompe pas, mais qui fait partie de ces médecins qui aujourd'hui interrogent en fait la médecine contemporaine et qui laisse entendre que, entre autres, les soins palliatifs ou d'apprendre à être en fait, c'est un nouvel horizon pour la médecine. Qu'est-ce que vous pourriez dire en fait de l'avant-garde de la médecine que représentent les soins palliatifs? quand on imagine que dans le fond c'est une spécialité, comme vous dites, comme une autre, qui est juste d'être spécialiste de la toute fin de vie.
Alors je ne sais même pas si c'est une spécialité. Se dire que il me semble que la pratique que l'on développe dans le cadre des soins palliatifs ou de la démarche palliative, aujourd'hui, dans une situation où les progrès de la médecine ont créé les conditions qu'on vit toujours plus longtemps avec des maladies qui autrefois nous emportaient assez vite et qui aujourd'hui sont là pendant des années et des années, de sorte que le gros de l'activité de la médecine aujourd'hui, c'est pallier les conséquences de maladies chroniques. Et en particulier les conséquences qui viennent impacter la vie de la personne, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie affective, sa vie sociale. Donc c'est une posture qui devrait être présente chez tous les soignants. Alors bien entendu, il y a des singularités ensuite, et c'est peut-être là que ça fait spécialité, quand on est dans ces situations complexes en fin de vie, où celui qui se confronte régulièrement à ces situations-là va acquérir des savoirs, une clinique, qui vont être utiles aux patients. Mais en dehors de ça, le gros de ce qu'on fait en soins palliatifs devrait être fait dans toute la pratique médicale, à mes yeux.
Je vous propose, Thierry Marmet, de faire une deuxième pause, et puis on va vous retrouver pour prolonger cette conversation, et puis pour parler un petit peu plus, on va dire, philo et sens de la vie. On l'a quand même déjà fait au long de cette émission. Je rappelle, chers auditeurs, que nous sommes en semaine de Radio Don. N'hésitez pas à nous appeler pour nous partager vos encouragements, nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas à cette antenne. C'est une belle occasion pour nous de vous rencontrer, de vous écouter, de faire en sorte de toujours mieux vous servir, et puis pourquoi pas de nous soutenir aussi financièrement. Je vous rappelle un numéro de téléphone: 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00.
Emmanuel Pella.
Thierry Marmet, un humaniste au chevet des mourants, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi, dernier jour de notre Radio Don. Ravi de rencontrer cette belle figure, et par la même occasion donc les soignants qui œuvrent dans ces services ô combien précieux que sont les unités de soins palliatifs. Je rappelle que vous êtes ancien chef de service de l'unité de soins palliatifs justement à l'hôpital Joseph Ducoing à Toulouse, et professeur associé de médecine palliative à la faculté de médecine de l'université Toulouse 3, Paul Sabatier. Comme de coutume dans ces émissions portraits et rencontres, on s'autorise, on va dire, une dernière partie plus philosophique, plus spirituelle. Vous avez accepté et on vous en remercie. C'est toujours un beau cadeau que l'on fait aux auditeurs quand on parle comme ça à cœur ouvert. Vous m'avez dit que souvent la question que je pose, c'est dans le fond pourquoi vous vous levez le matin à mes invités. Une question peut-être un peu abrupte. Si on doit commencer, dire de manière moins abrupte, vous me disiez que vous définissiez, alors je ne sais pas si vous définissiez comme un stoïcien, Mais en tout cas, vous vous êtes nourri de cette, en partie de cette, cette philosophie. Parmi toutes les choses qu'on pourrait dire du stoïcisme, j'ai lu qu'on pouvait dire que c'était une philosophie de la liberté intérieure. Est-ce que ça vous irait comme définition et comment vous nous présenteriez cette, cette philosophie qui vous a nourri?
Alors, je ne vais pas dire que je suis un stoïcien. Je me reconnais plus dans la posture des agnostiques qui sont toujours en train de se questionner et qui, en permanence, s'interroge sur le sens des actes, sur le sens de ce qu'on fait dans la vie, sur le sens des choses. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais glouton de lecture, et c'est aussi ce qui m'a amené à me poser des questions.
Cette gloutonnerie a continué. Vous disiez que pendant l'adolescence, vous lisiez parfois 3-4 livres par jour, c'est ça vous disiez?
Oui, ça pouvait être à ce rythme-là, mais j'étais autant capable de lire des romans policiers que des ouvrages d'anthropologie. Tout ce qui me tombait sous la main. Et donc, ce qui m'a amené à découvrir que, bon, moi, j'avais été élevé dans une culture particulière, religieuse particulière, mais qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui pensait différemment, bien que des questions revenaient toujours à peu près les mêmes, en particulier en travaillant sur l'anthropologie. Dans les travaux anthropologiques, la question de la mort, elle est quand même bien présente, et la question de comment on vit ensemble, elle est aussi bien présente. Et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises en parallèle, et que toujours à peu près les mêmes questions surgissaient, et comment on faisait pour faire face à cette inconnue qu'est la mort, et toutes les peurs qu'elle suscite.
Alors, comment vous y avez répondu et en quoi cette philosophie antique justement qui vous a en partie nourri, vous avez cité donc le manuel d'Épictète qui a été et qui est semble-t-il en partie fait partie de vos lectures de chevet. En quoi elle vous a nourri? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous en connaissez et comment elle vous aide à appréhender la mort?
Mais Épictète, il dit des choses quand même très fortes. Hein. Un des passages que j'ai pris là, c'est « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, la mort n'est rien de redoutable, mais le jugement que nous portons sur la mort, en la déclarant redoutable, c'est là ce qui est redoutable. » Autrement dit, la lecture d'Épictète, et puis après, je vais aussi croiser la lecture de Montaigne, j'aime bien quand Montaigne aussi dit quelque chose qui ressemble à apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Donc c'est effectivement le questionnement sur la mort a fini par me mettre dans cette posture de dire que ce qui dépend quand même bien de moi, c'est comment je vais conduire ma vie pour en profiter le plus possible. Sachant que j'ai eu le privilège d'être né puis de vivre une partie de ma vie à un moment où tout allait bien, hein. Les 30 Glorieuses, ça a été fantastique, hein. Puis finalement, fin du 20e siècle, les choses se tendent, et puis début du 21e, ça s'arrange sérieusement pas, et si aujourd'hui j'ai des inquiétudes, c'est moins pour le fait que ma mort approche, que sur le fait comment vont faire mes enfants et mes petits-enfants dans ce monde que je trouve fort violent. Donc en tout cas, pour revenir à votre question, ce qui m'a toujours porté, c'est de rechercher du sens et du plaisir à ce que je fais.
Alors, à propos de cette période qui est la toute fin de vie, où dans les unités de soins palliatifs, donc on travaille à faire en sorte que ça soit vraiment des lieux de vie. J'avais cru comprendre qu'on travaillait avec les patients aussi sur leur projet de vie. Dans ces unités de soins palliatifs, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est quand même, ça peut paraître étonnant de prime abord, mais ça dit l'intention profonde de ces lieux. J'ai lu aussi que votre Épictète et les stoïciens, ça pouvait être aussi une manière d'appréhender la vie et de viser, d'avoir une visée contemplative sur la vie, mais de chercher un peu une forme d'impassibilité. un état, on va dire, pas d'indifférence, mais c'est un nom même savant, l'ataraxie. C'est-à-dire qu'on est, on est délivré d'une certaine tristesse parce qu'on ne se préoccupe pas justement de ce sur quoi on n'a pas la main, et on vise une forme de, d'impassibilité qui ouvre à la contemplation. Est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu de renoncement là-dedans? Est-ce que vous retrouvez aussi là-dedans?
Pas forcément. Je veux dire que la visée de l'ataraxie, c'est pas forcément ma tasse de thé. Non, moi je suis plutôt dans l'idée que de bouger, de effectivement que même le plus petit des projets peut apporter quelque chose de positif à une situation qui est impossible. Alors la situation des personnes qui sont en fin de vie dans une unité de soins palliatifs et qui s'opposent à des situations complexes leur laisse guère le choix de trouver du sens à l'idée qu'ils pourraient encore faire projet et de vivre, mais de temps en temps, ça arrive. J'ai le souvenir d'une amie.
Parfois des réconciliations, non, aussi, qui se vivent dans les unités de soins palliatifs. C'est, j'avais
entendu.
Des
choses toutes simples. J'ai le souvenir d'une amie qui est venue mourir sur l'unité de soins palliatifs. Une maladie qui l'avait beaucoup atteinte et qui l'a coincée au fond du lit. Et un jour, elle m'accueille en me disant, Thierry, avant de mourir, je voudrais aller voir une dernière fois les pyramides en Égypte. Et c'est tout juste impossible, quoi. Et je lui réponds, ça serait tellement merveilleux que tu puisses aller voir les pyramides, ce qui l'a fait pleurer, bien sûr. Il me dit, oui, bah, je sais bien que je n'irai plus jamais voir les pyramides, mais je voudrais entrer une dernière fois à la maison. Est-ce que ça, on va pouvoir le faire? Et ça, on l'a fait. Donc, c'est, vous voyez, venir à des petites choses de rien du tout, comme celle-là, et on s'est mobilisé toute l'équipe pour qu'elle puisse aller une dernière fois à la maison. Ça va avoir du sens. C'est des petits projets réalistes. C'est là-dessus, avec beaucoup d'humilité, que ça porte. Alors, certains ont la chance de pouvoir se retrouver dans cet état contemplatif et qui vont aller sereinement jusqu'au moment où ils vont mourir. Enfin, c'est pas ce que j'aurais rencontré le plus souvent. C'est même rarissime, je dirais.
Alors, on dit aussi que le travail des unités de soins palliatifs, c'est de faire en sorte que ça soit un lieu où la question du spirituel soit pas tabou, et où les questions existentielles soient accueillies, voire accompagnées, pas forcément suscitées par délicatesse, mais bon, c'est pas un lieu, on va dire, où c'est interdit. Qu'est-ce que vous mettez, du coup, vous, derrière ce mot spirituel?
Est-ce que... Mais pour moi, la question de la spiritualité porte sur ce questionnement qui a toujours été le mien, qui est celui de chercher du sens à ce qui se passe, à nos actes, à ce qu'ils produisent, à comment on a conduit sa vie, à comment on envisage, y compris l'après, parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir des patients qui m'aient demandé, une fois que je serai mort, docteur, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a des questionnements autour de ça, qu'est-ce qui se passe après? Et il y a des représentations de ça extrêmement variées. Donc la spiritualité, elle est là dans ce questionnement qui est là, qui est présent et qui contribue à nous faire vivre, de mon point de vue. C'est par ce questionnement, cette recherche sur le sens, par cette spiritualité qui est un des éléments moteurs de notre manière d'être au monde et de vivre.
Alors, est-ce que pour vous, il y a quelque chose après la mort? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Je voulais citer, entre autres, Elisabeth Kübler-Ross, donc, qui est une femme que peut-être certains auditeurs connaissent, qui a beaucoup écrit, qui était psychiatre, qui a beaucoup travaillé donc aussi avec des personnes en fin de vie et qui, au long de ces années, qui s'est beaucoup intéressée aux expériences de mort imminente, NDE comme on dit en anglais, et qui au long des années a fini par développer la certitude qu'il y avait une vie après la mort. Alors est-ce que vous, le fruit de votre travail en unité de soins palliatifs d'accompagnement des mourants, ça a été que cette question il y a une porte qui s'est ouverte aussi?
Alors non, d'autant plus que je reste toujours curieux, les travaux récents de neurosciences montrent que cette histoire des near-death experiences, des expériences de ressuscitation après une mort clinique et puis un retour à la vie, est une disposition dont tous nos cerveaux disposent. C'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous, dans des conditions expérimentales, peut aujourd'hui vivre une telle expérience. Donc, voilà, c'est pas une attestation du fait qu'il y a quelque chose après ou qu'on pourrait aller vers quelque chose. Il y a ça qui est présent là.
Mais c'est pas forcément une affirmation, parce que ce que décrivent les gens n'est pas qu'une expérience biologique.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'où ça nous vient. D'où ça nous vient qu'on puisse tous faire cette expérience-là, qui est surprenante. Et du reste, on a des traces. Je ne peux pas parler de ça sans penser à un des tableaux de Jérôme Bosch, avec ce grand tunnel, avec des gens qui avancent dedans. Et ça ressemble étrangement à ce qui est décrit dans ces expériences-là. Donc, il y a des traces du fait que cette expérience-là a déjà été vécue il y a fort longtemps. D'où ça nous vient, ça? Et ça, c'est une question qui m'intéresse. Et ça fait partie des questions dont je discute beaucoup avec mes petits-enfants. Est-ce qu'il y a un dessin à l'apparition de l'univers, à la manière dont il fonctionne, à la manière dont il évolue? Ce sont des questions auxquelles je ne sais pas répondre, hein, mais qui méritent d'être discutées, et on en discute souvent. Mais pour autant, ça ne me forge pas dans des convictions particulières, et ça ne me fait pas dévier un seul instant de m'attacher toujours à prioriser les choses essentielles.
Est-ce que vous avez déjà lu les évangiles? Est-ce que
oui.
Le Christ est quelqu'un, enfin pas quelqu'un, est-ce que vous connaissez l'histoire de Jésus?
Oui.
Histoire vraie, quoi qu'on en dise, après on y prête foi ou pas, ça c'est une autre question, entre autres à sa résurrection. Je sais pas, comment vous avez trouvé cette lecture des évangiles? Où est-ce que vous suivez Jésus et où est-ce que vous vous arrêtez?
D'abord, c'est pas forcément un des livres qui m'est tombé très tôt sous les mains. Mais un jour, quand même, je me suis posé la question autour de réflexions autour de la religion. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé qu'il me fallait lire le Coran, qu'il me fallait lire la Bible, les évangiles et toutes les différentes versions des religions du livre, ce qui est fort intéressant, parce qu'en permanence, on mesure l'écart terrible qu'il y a entre ce qui est écrit dans les livres et la manière dont beaucoup de gens en parlent de façon fausse, interprétée, déformante. C'est tout juste très surprenant. Alors, l'histoire de Jésus, du coup, je la vois moi beaucoup plus.
Est-ce que c'est un homme qui vous pose question? Il a quand même eu des
paroles. C'est pas un homme qui me pose question, c'est un homme qui soulève des questions qui m'intéressent. Et qui, en plus, les habite métaphoriquement et en donne une version vivante qui alimente la réflexion et les questions. Le fait que je crois en Jésus ou pas n'importe plus, parce que c'est ce qu'il apporte, que ce soit une fiction, que ce soit une vie qui ait réellement existé, n'est pas important parce que il m'oblige à réfléchir.
Et alors la foi des chrétiens, qui est de croire que Jésus donc est ce Messie, en ce sens qu'il est revenu de la mort et qu'il a vaincu la mort et qu'il inaugure on va dire la vie éternelle pour les hommes, c'est quelque chose qui vous paraît être
s'inscrit dans une croyance, hein, que donc je respecte, mais je le respecte à condition que on mette sur un pied d'égalité toutes les croyances, parce qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas de la même façon. Et je suis peut-être plus impressionné par les croyances des Jivaro que je ne suis impressionné par des croyances qui sont portées aujourd'hui comme les meilleures.
D'accord. Juste, ce qui vous fascine ou ce qui vous intéresse dans les croyances des Jivaro, qu'est-ce que ça serait pour finir?
Ben parce que dans les croyances des Jivaro, c'est probablement dans tout ce que j'ai pu lire ceux qui ont une posture éthique et écologique la plus subtile. Et on devrait s'inspirer de comment ils ont vécu ensemble dans des conditions un peu extrêmes dans la forêt amazonienne et comment ils ont modelé la forêt amazonienne pour pouvoir vivre et survivre dans cet espace un peu terrible, quoi.
Eh ben c'est très bien, vous m'avez donné une très bonne idée d'émission, et si vous connaissez, dans ces cas-là, je vous inviterai dans le plateau de cette émission, si on fait un jour une émission sur cette, qu'est-ce qu'on peut dire, sur cette spiritualité. Merci beaucoup Thierry Marmet d'avoir joué le jeu, et plus que ça, d'être venu au micro de Vivante Église en ce vendredi. Un grand merci à vous. Je rappelle le titre d'un de vos livres, Éthique et fin de vie, paru aux éditions RS. Et puis, n'oubliez pas, chers auditeurs, que cette semaine, c'est particulièrement la vôtre. Cette radio, c'est la vôtre. Elle ne vit presque, enfin, elle vit en grande partie de votre générosité. C'est aussi toute la beauté de cette aventure. Voilà, les gens précieux, ce sont ceux qui écoutent et ce sont ceux qui viennent dans ces émissions. Donc, vous en êtes. Un numéro de téléphone pour nous soutenir moralement et financièrement. 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.